Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, je suis en compagnie d'Alain Chaffel qui a donné vendredi dernier une conférence passionnante ayant pour titre « Totalitarisme d'hier et d'aujourd'hui ». Donc avant que vous découvriez cette conférence, ou peut-être après l'avoir entendue, eh bien nous allons faire une connaissance un peu plus approfondie de qui est Alain Chaffel. On se connaît peu, j'hésite entre le vouvoiement et le tutoiement, parce que aussi je sais que c'est quelque chose qui nous pose question. Bah, on va prendre le tutoiement. Je t'ai proposé d'à quelques instants le vouvoiement, et j'en change, parce qu'en te regardant, je me dis que le tutoiement s'impose. Bah, j'ai toujours envie de commencer, et c'est un parti pris que j'ai pris depuis quelques temps maintenant, à travers le peu d'expérience que j'ai au niveau de l'interview, mais c'est quelque chose qui vient avec le temps, de poser la question, c'est quoi, quelque part, l'histoire d'Alain Chaffel? Qu'est-ce qui fait que la personne que j'ai en face de moi, qui a un certain âge, et une certaine expérience, qu'elle nous a fait entendre d'ailleurs, comment elle en est venue là? Alors, je te laisse le choix de la trajectoire et du point de départ.
Bon, on peut déjà dire que je suis né dans le Diois. Mon grand-père était petit paysan, Oslon. Il a quitté le village très tôt parce qu'il était pauvre, c'était assez classique. Et puis ensuite, il a rencontré ma grand-mère qui était une paysanne de Barsac. Voilà. Donc moi, je suis né à Barsac. Mon autre grand-père était au Creusot, il travaillait chez Schneider, et mon autre grand-mère faisait des petits boulots. Voilà pour les origines. Quant à mon père, il était garde forestier dans le Diois, et ma mère était instite dans le Diois également. Voilà pour les origines immédiates. Et puis ensuite, mon père est mort, j'étais très jeune, j'avais 7 ans, donc j'ai quitté le Diois, ma mère s'est remariée, et l'histoire a continué.
Ta maman, je peux même mettre ta mère, oui. J'ai du mal, j'ai tendance à dire maman ou papa, oui. Et papa et non pas mère et père, bon, travaillait j'imagine, et quel était son métier par exemple?
Alors ma mère était institutrice, mais il y a un autre point qui est central dans ma démarche, ma mère était membre du Parti communiste, mon père était membre du Parti communiste, secrétaire de la section de Die. Et quand ma mère s'est remariée, elle s'est mariée avec un professeur d'histoire, un intellectuel, donc membre du Parti communiste. Donc j'ai été élevé dans le biberon bolchevique dès mes origines, ce qui est forcément a marqué ma trajectoire. Et si j'ai fait plus tard des études d'histoire, c'est bien sûr pas un hasard, parce que le communisme, il faut comprendre l'histoire qui a un sens. Et puis ensuite, comme beaucoup de gens, eh bien, j'ai changé d'idée, d'avis. Je me suis détaché progressivement du communisme. Ça s'est fait entre le milieu des années 70 et la fin des années 70. D'où ensuite, évidemment, la volonté de réfléchir à ce sujet-là. Parce que quand on se détache d'une croyance aussi forte, on devient très anticommuniste. C'est un classique. Voilà. Ce n'est pas original de se détacher du Parti communiste. Toute l'histoire de ce parti est l'histoire d'un parti passoire. Des gens qui rentrent et qui sortent. Il y a essentiellement des gens qui sont sortis, d'ailleurs, du Parti communiste. Donc j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. Et c'est pour ça, bon, j'avais fait des études d'histoire entre-temps, que je me suis inscrit en thèse d'histoire à l'Université Lyon 2. J'avais 40 ans et j'ai travaillé pendant 5 ans un sujet passionnant. Les communistes de la Drôme, de 1944 à 1981. Parce que, au fond, qu'est-ce que je voulais comprendre? Je voulais comprendre les deux aspects du communisme, c'est-à-dire une imposture criminelle absolue, c'est un échec total, et en même temps, cet échec a engagé des gens sincères, humains, qui voulaient améliorer la situation des autres. Et puis, ce travail long mais passionnant m'a évidemment amené à réfléchir sur la radicalité, sur la haine, qu'est-ce qui nous anime, pourquoi on a ce besoin d'absolu, pourquoi on n'aime pas ce qui est mou, le centre, le marais, comme on disait à la Révolution. Donc j'ai réfléchi à toutes ces questions-là. Et puis également, j'ai essayé de voir qui s'engageait le plus dans ce processus, disons, de radicalité, avec l'espoir que les lendemains allaient chanter, même s'ils n'ont pas chanté. Et j'ai pu observer, analyser, que les gens qui étaient les plus fidèles au Parti communiste, ce n'étaient pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les ouvriers, puisqu'ils se baptisent partie de la classe ouvrière, mais en fait, plutôt les classes moyennes, et en particulier les instituteurs, les paysans toujours, pour des raisons assez connues, puisqu'ils restent dans leur environnement, qu'on voit moins de milieux divers et critiques, mais autrement, très clairement, avec les instituteurs, il y a un attachement très très fort au Parti communiste.
Je crois pas avoir fait une erreur. Tu dis à partir de 40 ans, c'est que
Voilà. Je me suis inscrit en thèse quand j'avais 40 ans. J'ai suivi la démarche classique. J'ai fait un DEA, voilà. Et puis après, une thèse. Alors, j'avais comme patron Yves Lequin, qui était prof à Lyon 2. J'ai soutenu ma thèse avec six professeurs et le président du jury, c'était Serge Bernstein, qui était à l'époque professeur à Sciences Po Paris. Voilà.
D'accord. Mais avant 40 ans, donc, tu étais prof d'histoire, tu as fait des études d'histoire.
Oui,
parce que la place de l'histoire, tu disais, mon beau-père était, il y a quelque chose qui s'impose à toi très rapidement au niveau de tes études en te disant... L'histoire, c'est vraiment la matière dans laquelle j'ai envie de me lancer. Bon, parce qu'on sait qu'un adolescent se pose toujours des questions de son itinéraire et des voies qu'il peut prendre.
Alors, l'adolescent ne savait pas exactement où aller, pour être honnête. J'hésitais entre plusieurs voies. Mon père, ayant été garde forestier, évidemment, je me disais pourquoi pas être ingénieur des eaux et forêts. Et puis, mon beau-père, étant prof d'histoire et communiste, je crois que ça m'a énormément influencé. J'aimais beaucoup le sport, je voulais être prof de gym, mais je crois que le métier qui m'attirait le plus fondamentalement, c'est le métier d'enseignant, de prof. J'avais envie de faire ça. Et donc, j'ai choisi l'histoire pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Voilà, c'est parce que c'est une matière dans mon milieu qui était centrale. On pensait expliquer le monde. Alors, j'ai découvert que c'est très compliqué, l'histoire. Parce qu'un historien, le malheureux historien, il est confronté à beaucoup d'handicaps. D'abord, on écrit l'histoire en fonction de ce qu'on est, de son passé, de son histoire, du milieu dans lequel on écrit, toujours. Il n'y a pas d'histoire neutre tombée du ciel, comme ça. Ensuite, l'historien, quand il écrit, il dépend de ses sources. Par moments, on en a beaucoup, trop, par moments, pas du tout. Et il faut évidemment croiser les sources, les vérifier pour avancer. Mais là où c'est le plus compliqué pour un historien, c'est qu'au fond, il devrait maîtriser toutes les sciences humaines pour s'en sortir. Évidemment, on en est bien incapable. Comme on écrit l'histoire des hommes, il faut connaître les faits, mais il faudrait être très fort en psychologie, en philosophie, en sociologie, en économie. Donc on est quand même souvent désarmé. C'est pourquoi j'ai ciblé ma thèse sur les communistes, qui est une thèse qui a une grande dimension au fond sociologique, parce que c'était le cœur quand même de mes recherches.
Je crois que moi j'ai un ami qui avait fait une maîtrise d'histoire sur la révolution russe dans Le Petit Parisien, qui était un journal donc de la période du début du XXe siècle. Et je me souviens que, puisque je découvrais l'histoire, ou en tous les cas c'était une approche plus scientifique, je dirais, c'était à l'époque, je crois, ce qu'on appelait l'analyse marxisme de l'histoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet aspect de l'analyse marxiste, si tant est d'ailleurs que tu puisses nous en dire quelque chose?
C'est un aspect théorique. Je ne sais pas si je suis au fond compétent pour développer ce sujet. Le cœur, c'est la lutte des classes est le moteur de l'histoire, on fait la différence entre les structures, c'est-à-dire en gros l'économie, les structures, les superstructures, la pensée, la religion, etc. Mais au fond, c'est pas ça qui m'intéressait vraiment. Moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi des gens s'engagent dans un combat et pourquoi les gens, à un moment donné, sortent de ce combat, sortent de cette croyance. Alors, ça m'intéresse doublement, puisque moi, mes origines m'ont poussé dans cette croyance, et j'en suis sorti. Donc, je voulais comprendre ces mécanismes d'ensemble. Mais alors, justement, pour rebondir sur cette histoire du travail historique, ce qui est important aussi, c'est de voir comment il est reçu. Le travail historique, quand on traite un sujet qui est vraiment toujours sensible, la croyance politique ou le communisme, on est perçu par ceux qui ne sont pas communistes comme un communiste, alors que je n'étais plus, et par ceux qui sont communistes et qui m'ont lu, souvent comme un anti-communiste. C'est très très difficile, il n'y a que le milieu universitaire au fond qui arrive à avoir un regard distancié sur la question, mais c'est très difficile de pouvoir en discuter sereinement dans le grand public. Et l'autre soir, quand j'ai abordé les thématiques du totalitarisme, quand je comparais le nazisme et le stalinisme, et puis ensuite les totalitarismes d'après 1945, en essayant de démontrer également si Daesh était un système totalitaire, j'ai été violemment, on peut dire, agressé par une personne qui n'a eu sur le fond aucun argument, et j'avais dû toucher sans doute un point sensible qu'il a l'atteigner au plus profond d'elle-même, sinon on aurait pu avoir une discussion pour ou contre. Il n'y a pas de vérité établie définitivement en histoire, naturellement. Tout est source de discussion, de débat, mais à condition de mettre les choses sur la table clairement. Et là, on sent sur ces sujets une passion qui peut très vite basculer dans la haine violente, sans argument, simplement pour disqualifier l'autre qui a priori a tort. Voilà. Donc c'est intéressant de travailler sur ces sujets, parce que la dimension passionnelle et affective qui existe partout, naturellement, là, vraiment prend une importance tout à fait considérable.
Est-ce qu'on n'est pas là au cœur de ce qui est de ce que l'on vit aussi aujourd'hui, quand on parle des idéologies ou des monothéistes, toujours dans un rapport extrêmement difficile et qui peut rapidement devenir conflictuel?
Mais ce qui est quand même frappant aujourd'hui, c'est ce retour du discours de haine. Alors, il a toujours existé, hein. Il faut surtout pas idéaliser le bon vieux temps, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais là, je trouve qu'il y a un discours de haine que l'on trouve aussi bien à l'extrême droite, à l'extrême gauche, et globalement, même ailleurs, mais c'est dans ces deux extrêmes qu'il est le plus fort, et globalement dans les affrontements politiques. Alors, au 19e, ils étaient très violents, les affrontements politiques, il suffit de voir la presse. Mais aujourd'hui, comme avec Internet, avec la télévision, avec l'immédiateté, eh bien, cette haine s'étale au grand jour, sans recul, sans analyse. Et c'est vrai que c'est quand même un peu inquiétant. Voilà. Je rêve d'un débat politique, disons, apaisé, d'un débat tranquille, contradictoire, parce que, je répète, il n'y a pas de vérité établie dans tous les domaines. Mais là, on sent une agressivité forte. Alors, l'agressivité, on la comprend parce qu'il y a beaucoup d'injustices, il y a une explosion des inégalités sociales, comme le montre très bien Piketty. Piketty montre que depuis les années 1980, on a une explosion des inégalités sociales, et si ça continue, on va se retrouver au niveau de la fin du 19e siècle, où c'était déjà un sommet. Donc il y a de vrais enjeux de société, mais plutôt que d'essayer de les traiter, disons, de façon à peu près apaisée, même si le calme est impossible, on a basculé dans un discours de haine et d'affrontement verbal permanent que je trouve inquiétant, oui.
Justement, sur la perspective historique, d'une certaine manière, on s'aperçoit que dans certains domaines, et peut-être aussi dans le domaine qui nous concerne, c'est la démocratie, est-ce que la démocratie est un système qui va perdurer dans le temps? On peut se poser la question. Est-ce qu'il y a aussi un retour de totalitarisme, de forme plus ou moins avérée de totalitarisme? On sait aussi qu'il y a un problème qui est par exemple posé aux jeunes générations, c'est la disparition de toute la génération des gens qui... issus de la Shoah, par exemple, que la mémoire, cet aspect mémoriel qui était lié au témoignage direct de des personnes survivantes, tend à faire, je dirais, à ce que le nazisme en particulier, soit expurgé d'un certain nombre d'éléments historiques qui étaient reconnus encore il y a 10-15 ans. Et on peut se poser la question, et je te la pose par la même occasion, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être chez les jeunes en particulier, en plus avec un clivage que l'on peut ressentir dans la société française entre les jeunes d'origine émigrée et des populations, en l'occurrence juives, on sait qu'actuellement il y a aussi une recrudescence dans l'antisémitisme. Est-ce que tu ne penses pas que la perspective historique, le fait que l'histoire ne soit plus nécessairement quelque chose auquel on porte intérêt, puisqu'effectivement, comme tu le disais, l'instantanéité a tendance à gommer le long terme. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion un peu large que je suis en train de te présenter?
Au fond, rien n'est acquis. Rien n'est acquis à l'homme, ni sa faiblesse, ni sa force, disait Aragon. Rien n'est acquis. L'antisémitisme remonte visiblement. Donc le combat contre l'antisémitisme doit continuer. Le racisme est là. Alors, les enquêtes montrent que ça n'augmente pas comme on l'imagine toujours, même si elles sont contradictoires. Mais c'est un combat qui n'est jamais gagné. La démocratie, c'est pas quelque chose d'acquis de façon définitive, parce que la démocratie, c'est quand même le compromis. Hein, le compromis, je ne dis pas la compromission, le compromis permanent, le dialogue, eh bien ça, ce n'est jamais acquis. La paix, la construction de l'Europe, de mon point de vue, évidemment, c'est une très bonne chose, puisque l'Europe avait fait deux guerres terribles au XXe siècle. Et on a construit l'Europe quand même en partie pour construire la paix, pas uniquement, hein, je résume. Mais la paix aussi, ce n'est pas quelque chose d'acquis de façon définitive. Donc il faut argumenter, se battre pour maintenir tous ces acquis. Mais rien n'est définitif. Et puis l'histoire réserve énormément de surprises. Et puis pour répondre à ton autre question, au fond tu me dis, tu sous-entends, est-ce que l'histoire est utile pour comprendre le présent ? Je répondrai évidemment dans un premier temps oui, mais en même temps c'est pas systématique, parce que chacun instrumentalise l'histoire à sa façon. On peut trouver dans l'histoire tout ce qu'on veut. Ce qui est très intéressant, quand je préparais cette conférence sur le totalitarisme, je lisais encore de nouveaux livres parce que ces sujets me passionnent, et j'ai lu la même semaine deux livres sur Lénine. Un livre de Courtois et un livre de Sève. Courtois, c'est lui qui avait préfacé le livre noir du communisme, qui a fait sa thèse sous la direction d'Annie Krigel, qui est une femme extrêmement brillante, ancienne communiste, qui a fait une thèse remarquable. Sève, c'est un agrégé de philo, brillant aussi, un vieux membre du Parti communiste. Bien. Quand on lit les deux livres, on a deux façons de voir l'histoire. Pour aller vite, évidemment, je ne peux pas développer trop longuement, mais pour Sève, vieux membre, vieux communiste, je ne sais pas s'il est encore au PC, peu importe. Lénine est un type épatant. Pour Courtois, Lénine, c'est celui qui, au fond, a lancé le processus totalitaire. Inutile de dire que je suis plutôt d'accord, même d'accord avec Courtois. Mais à la limite, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire dire à l'histoire, au fond, beaucoup de choses si on s'engage dans une démarche politique, idéologique ou autre. Donc l'histoire, c'est fondamental, mais l'histoire, ce n'est jamais une vérité définitive, donc on peut toujours instrumentaliser l'histoire. Néanmoins, elle est essentielle, comme l'économie, comme la sociologie. On ne peut pas travailler sans histoire. Voilà. On ne peut pas faire du passé, faisons du passé table rase, disait le tube international célèbre. Eh bien non, on ne peut pas faire table rase du passé.
Pour revenir au communisme, parce que étant donné que nous avons à peu près le même âge, c'est une expérience que j'ai vue de loin, il y avait quand même quelque chose qui... vu de France, en fin de compte, il y avait quelque chose de, d'assez passionnant quand même dans l'expérience qui se menait en France. Il y avait quand même des tu parlais, on parlait de l'histoire, mais il y avait aussi une vision de la culture. Il y avait une sorte de perspective d'émancipation des masses, quelque chose que peut-être le système communiste dans sa globalité ne fait pas apparaître, si tant est que tu pourras me contredire. Mais il y avait quand même quelque chose qui faisait qu'on... Il semblait faire bon vivre dans des communes qui étaient communistes.
Mais ça, c'est le côté lumineux du communisme. C'est-à-dire que le communisme s'est toujours battu pour la culture la plus générale, pour, dans les municipalités communistes, énormément de services publics, pour des discussions entre, moi je l'ai vécu à Barsac, entre le paysan qui reçoit le maître de recherche du CNRS, pousser les gens à aller vers le livre, vers le théâtre, vers la musique, etc. Bien sûr, c'est le côté lumineux du communisme, et c'est pour ça que ça entraînait beaucoup de gens vers cette croyance totale. Mais alors, évidemment, ce côté lumineux, que j'ai bien connu naturellement, a empêché de voir la triste réalité du monde communiste réel, qui là est objectivement une catastrophe. Et c'est le crime qui l'a emporté, hélas. Mais il y a deux facettes dans le communisme, et en France, on a connu la facette, disons, plutôt lumineuse dans les municipalités communistes, peut-être que j'exagère un peu, mais en même temps, au niveau des dirigeants politiques du Parti communiste, un sectarisme considérable à partir de 1947, où, avant le Front populaire, il y a eu différentes phases dans l'histoire du Parti communiste. Un mot sur ces phases, on voit bien, si on se replace dans la période actuelle aujourd'hui, quand est-ce qu'au fond il y a ce qu'on appelle des avancées sociales, les congés payés, des droits sociaux importants. Chaque fois, il y a des avancées sociales quand le discours communiste ou radical d'extrême gauche aujourd'hui, eh bien, supprime sa radicalité pour aller vers une collaboration avec les forces réformistes. Alors pour les radicaux, les réformistes, ça a toujours été des traîtres. À l'époque, en 1932-1933, c'était même des socio-fascistes. Mais on voit bien que lorsqu'ils arrivent à s'entendre, eh bien là, il y a des avancées. Et l'exemple type, on pourra les multiplier, mais c'est Thorez. Thorez, en 1934, qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'en 1933, le Comintern disait, voilà, il ne faut pas discuter avec les socialistes, c'est des traîtres, c'est des fascistes, ils font le jeu de la bourgeoisie et du fascisme. Et puis l'international communiste évolue, et au cours du printemps 1934, il dit, ben non, on va changer de ligne, on va s'entendre avec les réformistes. Évidemment, Thorez, qui est un communiste qui suit la ligne, change de ligne. Mais comme Thorez est un type incontestablement intelligent, il est allé plus loin que l'international communiste. Il a proposé dans l'alliance du Front populaire de ne pas en rester uniquement à l'alliance avec les socialistes, mais de proposer une alliance avec les radicaux. Et cette alliance large a permis la victoire du Front populaire et les avancées du Front populaire. Donc j'en tire comme conclusion, autour du débat sur la gauche, la vieille gauche ou pas, peu importe au fond. Il faut arriver quand même à une entente, dépasser ces haines et ces clivages absolus, si on veut qu'il y ait malgré tout, non pas des affrontements permanents, mais de nombreuses avancées. Voilà.
Est-ce que ça a été un deuil pour toi de rompre avec le Parti communiste, avec ce qui t'avait fait quand même une grande partie de ta vie? Et quel a été l'événement qui a été, y a-t-il un événement d'ailleurs qui a été un élément déclencheur de ce processus?
Alors oui, c'est un deuil. On ne rompt pas avec une croyance, c'est une église. J'imagine que quelqu'un qui a cru en Dieu, un chrétien, et qui rompt, ça doit être terrible. Non, c'est terrible de rompre avec une croyance, parce qu'en même temps, on rompt avec sa famille, avec un certain nombre d'amis. C'est très dur. Il faut des années. Je ne sais pas d'ailleurs si on s'en sort, fondamentalement. Mais comment on sort de la croyance ? Eh bien, comme à chaque génération du communisme, on apprend, on découvre, et il y a des choses qui apparaissent. Si on prend les personnages importants du communisme, Souvarine est le premier, en 24-25, à comprendre. Je parle de ceux qui étaient engagés, d'autres comme Frossard avaient pigé, ou Blum qui n'y était pas rentré avait compris tout de suite. Mais Souvarine, qui était un grand révolutionnaire français, a compris. Et ensuite, toute l'histoire du communisme, ce sont des ruptures de ce type-là. Autre rupture emblématique, Pierre Dex, qui travaillait avec Aragon aux lettres françaises. Alors pourquoi je cite Pierre Dex ? Parce que c'est avec lui que j'ai commencé à rompre. J'ai lu un ouvrage qu'il avait publié en 76, je crois, « J'ai cru au matin », où il explique sa démarche et sa rupture. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à rompre et à me poser des questions. Alors bien sûr, c'est très long. Ça demande des lectures innombrables, des dizaines de milliers de pages de réflexion. Et puis ça s'est achevé par mon doctorat d'histoire. Voilà. Mais c'est très, très, très long.
Juste ça, parce que moi, c'est un peu une des souvenirs que j'ai. Il y a quand même deux marques un peu qui vont faire scission dans le Parti communiste. C'est 56, Budapest. Et c'est Prague aussi, 68. Toi, là-dedans, par rapport à ça, qu'est-ce que tu avais comme vision à l'époque ?
56, j'étais un gamin. J'avais 7 ans. Donc, aucune vision. 68, c'est différent. J'étais dans un milieu très communiste. Alors, officiellement, des stalles, on dirait. Hein, mais de braves gens, mais très, très sectaires. 68, officiellement, le Parti communiste, par rapport à Prague, a condamné. Mais ce n'était pas si simple que ça dans la réalité. Les discussions au sein du bureau fédéral dans la Drôme montraient qu'il y avait des partisans de l'intervention et d'autres non. Ce n'était pas simple. Mais dans mon milieu très sectaire, mon beau-père, lui, était pour carrément l'intervention. Il était pour l'intervention en 68 avec les éternels arguments des communistes, à savoir qu'il y avait une menace fasciste qui voulait renverser le socialisme. Et comme le socialisme, c'est le bonheur sur Terre, il y a une menace. Et puis si on rajoute un peu de complot capitaliste par derrière, tout y est. Donc voilà comment on peut voir un événement. Mais à l'époque, je n'avais pas évolué. J'étais trop jeune. J'avais même pas 20 ans. Donc je n'avais pas évolué. J'ai commencé à évoluer à partir du milieu des années 70. Donc, à partir de 25-26 ans. Voilà, il a fallu du temps.
Deux questions pour terminer. Une qui est, certaines personnes disent, en fin de compte, le communisme n'a jamais existé. En fin de compte, le marxisme n'a jamais été mis en pratique. Le communisme n'est qu'une forme dévoyée du marxisme. Position par rapport à ça, puisque un certain nombre d'intellectuels continuent à défendre cette position actuellement.
Ça, c'est un débat, mais qui est vieux comme le communisme. Trotsky, le premier, évidemment, enfin, il n'est pas le seul, hein, mais parmi les gens importants, premier à dire, ben voilà, l'Union soviétique, on va vers... il a même parlé de totalitarisme. Et on peut construire autre chose. Et le phénomène ne s'arrête pas. Comme le communisme a échoué partout, en URSS, en Indochine, en Chine, ça ne marche pas à Cuba, etc., dans les pays de l'Est, mais qu'on veut croire, ce raisonnement revient régulièrement en disant ben, c'est pas le vrai communiste, mais un jour on construira le vrai communiste. Mais il se trouve que chaque fois qu'on a voulu construire, ça n'a pas fonctionné. Alors parfois, ça s'est orienté vers le tiers-mondisme. On allait, dans les années 60, construire le communisme dans les pays en voie de développement. Là aussi, ça ne fonctionne pas. Alors il y a encore des gens comme Badiou, par exemple, qui passent un petit peu par pertes et profits les crimes du communisme, habilement, parce qu'évidemment... Il est suffisamment doué pour le faire, et puis qui ensuite explique qu'on peut construire un communisme nouveau. Bon, ça n'a pas marché, il rêve, je les laisse rêver, voilà.
Et puis on va terminer par une dernière question, puisqu'on va fêter les 50 ans de mai 68. Oui, et puis c'est aussi le 5 mars, c'est la date anniversaire de la mort de Martin Luther King. Alors, je ne sais pas si on peut faire un parallèle entre les deux. 68 a été une année effectivement extrêmement tellurique, je dirais, mondialement. Position par rapport à ce que les anniversaires valent le coup d'être fêtés, celui de mai 68 en particulier.
Ben, 68, bien sûr, parce que 68, c'est un grand mouvement qu'il faut comprendre également dans le cadre de la guerre du Vietnam et puis de l'évolution des mœurs, des mentalités. Bon, on peut pas, ça serait trop long d'en parler, mais on sait bien, tu vois bien le débat autour de 68, ceux qui disent ils ont mis la chienlit, etc., et ceux qui disent, ben voilà, c'était un changement, une ouverture du monde. Bon, moi je me place clairement du côté d'une vision positive de 68, avec ses dérives, il y a toujours des dérives, mais ça correspondait à un besoin de la société à tous les niveaux, des mentalités, le regard par rapport à la hiérarchie, le problème de la sexualité. Il y a eu énormément de choses qui ont bougé, qui ont changé. changer, le regard par rapport à la jeunesse, voilà. Donc, comme dans tout mouvement, on peut porter évidemment des analyses critiques, très logiquement. Je pense au mouvement qu'on disait gauchiste de l'époque. Il y avait trois courants trotskistes qui se tapaient dessus, qui tapaient contre les staliniens. Il y avait la gauche prolétarienne, les Mao Spontex. Bon, tout ça, c'est évidemment, c'est de l'écume, c'est pas fondamental. Mais au niveau des structures profondes de la société, c'est un événement, voilà, c'est un événement. Il faut l'analyser en tant que tel, pas dire c'est mal, dire c'est bien. C'est un événement qui s'est produit parce que ça devait à cet instant-là se dérouler de cette façon-là, parce qu'il y avait des blocages dans la société. Il y avait la guerre du Vietnam, ne l'oublions pas. On était à la fin au fond d'un grand processus de décolonisation. Tout ça se mélange. Donc voilà, c'est comme ça que s'est déroulé 68.
Et puis dernière question avant de conclure, y a-t-il encore des choses à écrire sur le communisme ?
Bien sûr, l'histoire ne s'arrête jamais. Il y a Fukuyama qui avait écrit un livre, l'histoire est finie, là, à la fin du communisme, pour dire voilà, il n'y a plus qu'un modèle. En gros, le modèle américain, non, l'histoire n'est jamais finie.
Très bien, nous allons arrêter cette interview sur cette excellente phrase. Tout continue et tout se renouvelle, se réécrit. Et bien maintenant, je vous laisse le soin d'écouter la passionnante intervention d'Alain Chaffel sur les totalitarismes. À bientôt.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.